Le journal Mireille Boukassa. Le Conseil de sécurité des Nations Unies met en garde Laurent Kunda et appelle à un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. La SADC, elle, s'engage à renforcer la capacité des FRDC pour la défense de l'intégrité territoriale du pays. Affaire Thomas Lubanga, les procédures à l'endroit de l'ancien chef rebelle des Litouris restent suspendues. La chambre d'appel de la CPI l'a décidé hier, mais cette décision n'ordonne pas la libération de Thomas Lubanga. En Ituri, il manque de nourriture dans la cité de Komanda. 4 enfants de 5 ans au plus en sont morts dimanche et lundi dernier, d'après le médecin chef de cette zone de santé. Bonjour et merci de nous écouter. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à un cessez-le-feu dans l'est de la RDC et met en garde Laurent Kunda quant à son appel à un soulèvement national. Cette position onusienne appartient à une déclaration rendue publique hier. Daniel Tambizoni.
Cette déclaration lue par son président en octobre, le Conseil exprime sa profonde préoccupation face au regain de violence dans les provinces de l'Est de la RDC. Le Conseil de sécurité est aussi préoccupé par les conséquences pour la région. Dans la même déclaration, l'ambassadeur de Chine, Zhang Yeshui, réaffirme que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées. Le Conseil demande à nouveau à tous les groupes armés de déposer immédiatement les armes et de se présenter sans plus tarder et sans condition préalable aux autorités congolaises et à la mission de l'ONU en RDC en vue de leur désarmement, rapatriement, réinstallation et réintégration selon le cas. Le Conseil de sécurité de l'ONU réaffirme également la validité des processus de Goma et de Nairobi pour parvenir à la stabilité de l'Est du pays. Il exhorte toutes les parties à ces accords à s'acquitter de leurs engagements de manière effective et de bonne foi. Toujours dans la même déclaration, le Conseil condamne avec force les récentes déclarations de Laurent Kunda appelant à un soulèvement national.
Pour sa part, la SADC est engagée à renforcer la capacité des FRDC pour la défense de l'intégrité territoriale dans le pays. C'est l'une des résolutions prises lundi dernier au sommet des chefs d'État d'Afrique australe tenu au Swaziland, sommet auquel a pris part Joseph Kabila. Le ministre de l'Intérieur en a parlé hier lors d'un point de presse à Kinshasa. Denis Kaloumé revient ici sur quelques recommandations prises à l'issue de ce sommet qui s'est penché sur la situation de guerre dans l'est de la RDC. Écoutez. Le au micro d'Askin Zigbia.
Le président membre de la Troïka de la SADC, ils ont chargé le président en exercice de la SADC d'entreprendre une mission au niveau diplomatique pour aller témoigner les préoccupations de l'ensemble des pays de la SADC face à cette situation d'agression de la République démocratique. L'humanitaire, l'ensemble des pays de la SADC étaient très préoccupés et indignés de la situation humanitaire et ils ont pris l'engagement de pouvoir alerter. Mobiliser les ressources et venir en appui de ces Congolais dans les domaines militaires. Les pays de la SADC ont pris l'engagement de pouvoir se consulter le plus rapidement possible pour qu'ils puissent appuyer le renforcement des capacités des forces armées congolaises de manière à leur permettre de défendre l'intégrité et la souveraineté de l'Afrique.
Le ministre d'État Denis Kaloumé a également ajouté que la SADC va exposer les problèmes de la RDC à une réunion qui se tient ce mercredi en Ouganda entre trois organisations sous-régionales, à savoir la SADC, le COMESA et la CEPGL. Un projet de loi sur les armes légères et de petit calibre en RDC, il a été présenté hier à l'Assemblée nationale. Cette loi a pour objectif de gérer et de contrôler la circulation, l'usage et la détention illégale de ces armes. La prolifération de ces armes, soulignent les députés, a eu des conséquences innombrables sur la vie des Congolais. Marie-Chantal Lumba.
Cette proposition de loi prévoit la création d'une structure nationale chargée de coordonner les questions ayant trait à la lutte contre la prolifération et le trafic illégal de ces armes. Les statistiques révèlent que plus d'1,2 million civils et paramilitaires détiennent illégalement des armes en RDC et que près de 79% des victimes de ces armes sont des civils. Le déplacement des personnes, viol, vol, massacre, destruction des infrastructures et de l'environnement, enrôlement des enfants, enfants sans quelques conséquences néfastes liées au trafic illégal, l'utilisation abusive et à la prolifération des armes légères et de petits calibres en RDC. Cela contribue à l'insécurité et à l'instabilité politique et socio-économique du pays. Raymond Louété, l'un des initiateurs de cette proposition de loi, déclare que la promulgation de ces textes va réglementer ce secteur. Il s'agit entre autres des catégorisations de ces armes, des dispositions d'acquisition légale et des lourdes pénalités contre les réfractaires.
Au Nord Kivu, les déplacés fuyant l'insécurité dans l'Ituri continuent d'affluer dans les cités des Ringeti et d'Oicha, respectivement à 58 et 30 km au nord de la ville de Beni. À pied, ces déplacés fuient depuis la semaine dernière les affrontements entre FRDC et miliciens FRPI dans le territoire de Irumu. Ils sont démunis de tout, comme nous le dit Étienne Windo.
La première vague de déplacés à provenance du territoire d'Irumu est arrivée à Eringeti à Oicha jeudi dernier, indique Teddy Kataliko, secrétaire de la société civile du territoire de Beni. Le recensement effectué dimanche dernier à Eringeti à Oicha donne le nombre de 492 ménages, poursuit-il. Les membres de la Croix-Rouge cité d'Oicha déclarent que les déplacés continuent d'affluer. Ils ont besoin de vêtements, de nourriture, d'abris. La plupart d'entre eux passent la nuit à la Belle Étoile, d'autres dorment dans des églises, dans des écoles ou encore dans des maisons abandonnées, affirme-t-il. Cependant, les chargé des affaires humanitaires à Sissa Docha précise qu'un mécanisme d'assistance aux déplacés déjà mis en place. L'ONG Solidarité est allée faire l'évaluation de la situation sur terrain et l'ONG Merlet a remis un lot de médicaments au centre de santé de référence de Ringeti et l'autre au centre de santé de Mambeka à Oicha, des structures sanitaires qui ont été choisies pour soigner les déplacés malades. En outre, il souligne qu'Ocha est en train de faire les plaidoyers auprès des humanitaires pour qu'ils viennent en aide à vivre et à non vivre à ces déplacés. Boutembo, Etienne Windo, Radio
Affaire Thomas Lubanga. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé hier du maintien de la suspension des procédures à l'endroit de l'ancien chef rebelle de l'Ituri. Mais cette décision de la CPI n'ordonne pas la libération de ce dernier. D'après le chargé de l'information et de sensibilisation au bureau de la CPI en RDC, la décision de libérer ou non Thomas Lubanga revient au juge de la chambre de la première instance, et ce en tenant compte, entre autres, des conséquences de sa libération par rapport aux victimes. Paul Madidi est joint par Onésime Mukandila.
La chambre d'appel a réagi aux appels interjetés par le procureur, demandant d'une part la levée de la suspension dans la procédure le procureur contre Thomas Lubanga et d'autre part le gel de la décision de le libérer. Alors les juges viennent de dire on confirme la suspension de la procédure, on gèle la décision de libérer Thomas Lubanga, mais on demande au juge de la chambre de première instance qui était en train en fait d'organiser le procès Thomas Lubanga de décider eux s'il faut libérer ou pas Thomas Lubanga en prenant compte du fait que le procureur est en négociation avec les Nations Unies et d'autres organisations pour lever la confidentialité sur ces fameux documents, mais aussi les conséquences d'une possible libération de Thomas Lubanga par rapport aux victimes. Pour l'instant, M. Lubanga reste encore détenu.
Économie, la minière de Bakwanga ne peut, au stade actuel, payer les 20 mois d'arriérés de salaire et son personnel en est bien conscient. Il faut attendre pour cela le prêt sud-africain grâce auquel la MIBA entend notamment relancer sa production. C'est la réaction du président administrateur général de cette entreprise hier au cours d'un point de presse à Kinshasa. Le PAD de la MIBA répondait à la situation de grogne sociale observée depuis le début de la semaine à la minière de Bakwanga. Selon Paul Kabongo, depuis décembre dernier, 48% des recettes sont consacrées aux charges sociales mensuelles. Il appelle par contre les agents et travailleurs de la MIBA à protéger leur entreprise par leur activité. Ces propos sont recueillis par Nazaire Koko.
Depuis décembre de l'année passée jusque fin août, chaque travailleur, chaque agent de la MIBA a reçu une paye. Nous avons eu un retard pour le mois de septembre parce que le monsieur à qui nous avons adjugé la production n'ayant pas pu payer, n'est-ce pas, ce qu'il devait nous payer dans les délais. D'ailleurs, à cause de ça, nous avons décidé d'envoyer notre production sur une grande place diamantaire où malheureusement nous avons fait une mauvaise vente. Mais je vous dis que tout ceci a été expliqué aux responsables de la société, à la délégation syndicale de la société Et au moment où je suis en train de parler avec vous, l'argent est arrivé à Mbujimayi et on est en train de payer les travailleurs. Mais on paye ceux qui sont sur leur lieu de travail.
Et sur place à Mbujimayi, jusque hier soir, aucun agent n'a certifié avoir reçu sa paye de septembre.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Au Nord Kivu, la société civile de Mangurejipa, en territoire de Lubero, accuse les Maïmaï de Vurondo de tracasser la population.
Ces combattants Maïmaï ont érigé des barrières sur les routes des déserts agricoles où ils perçoivent illégalement des taxes. En outre, ils s'immixent dans le jugement des affaires civiles.
En Ituri, un enfant de moins de 5 ans est décédé lundi dernier suite au manque de nourriture dans la zone de santé de Komanda.
Information livrée par le médecin responsable de cette zone de santé. Il ajoute que le dimanche dernier, 3 autres enfants de moins de 5 ans sont morts dans les mêmes conditions. D'après cette autorité médicale, ces décès sont survenus dans un campement de déplacés situé au niveau du pont de la rivière Ituri, à environ 7 km du centre de Komanda. Le médecin chef de la zone de santé de Komanda lance un SOS aux différents partenaires pour une assistance humanitaire d'urgence à ces personnes qui vivent dans des conditions sanitaires déplorables. Docteur Patrick Mbarikalé, et je viens au téléphone par Jean-Claude Loki.
Ces populations-là vivent à la belle étoile, n'ont pas à manger, n'ont pas à boire, malgré que la flambée des maladies guéries qui dit aux mains sales qui pourraient venir incessamment parce que la population fait ses toilettes dans la rivière et la population boit cette même eau. Alors, si une flambée d'épidémie venait, nous n'avons pas une base de médicaments ou matériel pour venir en aide à cette population. Nous allons assister paisiblement à des décès à chaîne. Alors, pour rappeler encore aux autorités politico-administratives de faire les plaidoyers au niveau des partenaires et des ONG qu'on puisse venir le plus tôt possible en aide à cette population.
Jacques-Yves Molima, à Bukavu, le torchon brûle à nouveau au sein de l'Association des chauffeurs du Congo.
Un mois après les élections générales du comité dirigeant qui ont reconduit à la tête le président Kayeye Mouyi Mouzi, le comité national de la SECO depuis Kinshasa vient d'annuler ses votes et de nommer le nouveau dirigeant. Il désigne ainsi le candidat malheureux de la récente élection comme nouveau président. Cette situation fait ressurgir alors le malaise observé dans les camps des deux protagonistes depuis la période des élections. En attendant donc les conclusions du parquet où les candidats perdants avaient introduit son recours, la division des transports précise que le président Kayeye continue à diriger l'Association des chauffeurs du Congo, une structure présente dans les 8 territoires de la province avec plus de 1500 véhicules affiliés, principalement des taxis.
4 morts, une dizaine de blessés, dont 6 dans le coma, et admis à l'hôpital général de référence de Guémena. C'est le dernier bilan de l'accident de circulation survenu lundi dernier à 5 km du chef-lieu du sud, Ubangi, province de l'Équateur.
Selon des témoins, il s'agit du bus des Pères Capucins qui déversait le tronçon Guémena-Bouamanda. Il s'est englouti dans la rivière Ndongo lorsqu'il traversait un pont dans un état défectueux. Nos sources affirment que les victimes ont trouvé la mort, notamment à cause de la bâche du véhicule qui leur empêchait de sortir de l'eau. Témoignage de l'abbé Christophe Yongo, joint au téléphone par Henri Lobondobokelou.
Il s'agit d'un camion de Pères Capucins qui fait le transport de personnes entre Guémena et Bouamanda, vu les conditions difficiles de transport. Et le lundi dernier, ce bus revenait de Guémena. Il a connu un accident sur un pont.
À quel état se trouvait ce pont?
Le pont n'était pas très bien entretenu. Depuis un certain moment, c'est Batipont qui devait s'occuper de cette route. Mais ça fait déjà quelques temps qu'on n'entretient plus comme le CDI le faisait avant. Et il y a eu cet accident. C'est bien dommage parce que ce sont de vies humaines qui sont parties.
Le véhicule reste encore sous les eaux. Les prêtres ont remis 4 cercueils pour l'inhumation des victimes. À noter que samedi dernier, 2 autres personnes avaient trouvé la mort au cours d'un accident de circulation à 25 km de Guémena sur l'axe des Zongo.
6 personnes sont mortes, 4 ont disparu dans le naufrage d'une pirogue dans le sud-ouest du Guinée équatoriale. La dite pirogue tentait de relier la localité équato-guinéenne de Kogo à Coco Beach dans le nord-ouest du Gabon. C'est la radio nationale équato-guinéenne qui a livré cette information, sans toutefois donner les causes de cet accident. La troisième journée de la Ligue des champions de football européen s'est jouée hier mardi soir et continue ce mercredi. Au total, 16 matchs en raison de 8 par jour. Hier soir, Arsenal a eu raison de Fenerbahçe par un score de 4-1, puis victoire de Juventus de Turin face à Real de Madrid par 2-1. Vous aurez plus de détails dans le journal de sport à partir de 7h20. Il est 7h15 dans le studio Jérôme Gongo de Radio Capi. Oh, Capi.